j'appelle parce que je viens d'allumer mon ordinateur et puis j'ai relevé mes mails et là, surprise, chose géniale, un mail de l'équipe de La Basse et J'y suis avec un résumé des émissions de la semaine et surtout des liens pour écouter les émissions. C'est tout bonnement génial, c'est une très très bonne chose. Et ben voilà, j'appelais juste pour dire que j'étais très content, je trouve ça génial, vraiment génial. Bon courage, longue vie à La Basse et J'y suis, et voilà, à une prochaine fois. Au revoir.
Voici le texto. Je crois que France Inter vire à droite. Pour réécouter le texto, tapez 1. Je crois que France Inter vire à droite.
Podcasté, qui disait pour écouter Mermé. Alors, je me suis équipé. Un ordinateur à 699 euros. Un pack office à 250 euros. Une connexion à haut débit à 29,90 euros par mois. Un lecteur MP3 à 75 euros. Et dans ma voiture, j'ai changé mon autoradio pour un autoradio MP3 à 330 euros. Donc, je récapitule. 699 plus 250 plus 29,90 plus 75 plus 330. Ça nous fait donc un total de 1383,90 €. Soit en francs, un peu plus de 9000 balles. Donc, pour toujours écouter Là-bas si j'y suis à 17h dans ma voiture quand je rentre du boulot, il m'en a coûté 1383,90 €. Dis-moi, Daniel, la facture, est-ce que je l'envoie à Cluzel, direction de Radio France, ou à Schlesinger, direction de France Inter? Daniel, j'attends ta réponse avec impatience.
Oui, bonjour. J'entendais un auditeur qui disait qu'il avait dû acheter un iPod pour podcaster l'émission. Alors moi, je voudrais dire pour tous les auditeurs qui se font de la chier parce qu'on ne peut plus écouter l'émission à 17h, il y a un lecteur qui s'appelle Juice qu'on peut télécharger. Il n'y a pas besoin d'iPod. Et voilà, juste un ordinateur et puis on podcast. Voilà, un gros bisou à tout le monde et puis vive La Basse et J'y suis.
J'écoute en podcast à peu près, on va dire, entre 2 voire 4 émissions avec mon MP3. Donc voilà, donc j'en suis au mois de septembre 2005, depuis 2 mois. Donc j'écoute régulièrement et je me fais des piqûres de rappel de Daniel Mermé de toutes ses émissions. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai appris beaucoup de choses. Et pourtant, je suis de gauche et pourtant, je pensais savoir des choses. Et ben non, voilà. Donc, je suis très déçu que ça soit à 15h. Mais voilà, je fais partie des fidèles auditeurs depuis ce mois de juillet. Et je vous prépare une petite surprise. Voilà, bon courage à tous et puis bon début de l'année. Au revoir.
Aujourd'hui, c'est triste. Nous célébrons cette la mort atroce de 3000 morts après l'attaque des tours de New York. Alors, 3000 morts atroces après l'attaque des tours de New York, d'accord. Mais combien de centaines de milliers après le passage des avions états-uniens déversant de la dioxine, dit agent orange, sur le territoire vietnamien? Cet agent orange qui tue encore aujourd'hui, qui fait naître des enfants anormaux, voilà. Alors, qui ne se souvient pas des tours enflammées, nous dit-on en boucle sur les antennes ce matin? D'accord, oui, je me souviens de ces tours enflammées. Mais qui se souvient de My Lai, ce village martyr, où femmes et enfants ont été transformés en torches vivantes après le passage des bombes états-uniennes? Qui se souvient de cette petite fille qui courait sur la route, noire d'avoir été brûlée par les bombes américaines, états-uniennes? Alors voilà, simplement, j'aimerais bien que l'on médite sur les différentes formes de terrorisme dans le monde.
Allô, bonjour, c'est Vivian. Alors depuis ce matin, on entend beaucoup de battage sur un anniversaire, le 11 septembre 2001. Mais on parle pas beaucoup du 11 septembre 73. Alors c'est peut-être à rapprocher du fait de la politique française. Une fois, j'ai entendu sur France Inter un ancien ministre qui se dit centriste quand on l'interviewait au sujet de Pinochet, qui disait que c'était quelqu'un qui avait tout de même sauvé le Chili. Voilà.
Voici le texto. Je crois que France Inter vire à droite. Pour réécouter le texto, tapez 1. Je crois que France Inter vire à droite.
Voilà, bah c'est rigolo d'entendre des politiques évoquer des choses qui nous hérissent le poil souvent. Puis là en particulier, c'est vraiment intéressant parce que bon, ils nous parlent que les sportifs ou des personnes éminentes profitent de leur situation pour faire de la politique, mais c'est rigolo de voir parfois des politiciens profiter du sport pour se montrer dans les tribunes. Enfin voilà quoi.
Bonjour à tous, c'est Julie de Toulouse. C'est super, moi je dois coucher d'ici une semaine, donc mon petit bébé me permet au jour d'aujourd'hui de suivre l'émission même à 15h, ce qui est un grand plaisir. Et puis je suis en train de suivre celle d'aujourd'hui donc sur l'initiative des deux footballeurs, entre autres concernant les gens de Cachan et les réactions des politiques, et je commence à en avoir ma claque, d'avoir l'impression, et c'est ça, d'être considéré comme peuple mineur, un peuple mineur n'étant pas capable et n'ayant pas la possibilité, bien sûr, de réfléchir par lui-même, d'où l'intérêt de former des hauts fonctionnaires, entre autres, pour penser à notre place. Et depuis quand la politique devrait être l'apanage des politiciens? On est tous concernés, moi au premier chef, et ce bébé qui va venir aussi. Et là, je commence à en avoir marre, ouais, d'être considéré comme mineur, comme ce peuple mineur que nous sommes. Donc bon, encore vaste débat.
La cité de Sarkozy, de moi charter, de Sarkozy, de moi charter, au roi ainsi, au roi ainsi, de Charles de Gaulle, au Charles de Gaulle, arrestation, dans les métros.
L'acte de Thuram, c'était simplement, d'ailleurs il paraît qu'il le fait souvent, d'habitude, si les médias n'en avaient pas parlé, il n'y aurait pas eu de ce commentaire. Il a dit qu'il ne voulait pas donner de la publicité à cet acte, c'est parce que ça s'est su, ça a débordé, on en a parlé. Donc l'auditrice, ou elle est de mauvaise foi, ou c'est une connasse, voilà. Et j'estime que c'est un peu trop dans votre émission, vous prenez le côté qui vous plaît, qui vous intéresse, qui vous flatte dans le sens du poil. Quelquefois aussi, bon, vous êtes assez objectif, mais là, ça ne l'est pas du tout. Écoutez, je vais écouter votre auditrice, là, qui téléphone, ou Liliane Thuram, que j'ai entendu de mes deux oreilles hier soir. Hein? Il s'agit quand même de pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très honnête, tout ça. Merci, au revoir.
Alors, bah oui, c'est pas très honnête, c'est pas sûr, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Cher AMG, chère auditrice, modeste et géniale, 11 septembre aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire du 11 septembre, mais lequel on aurait pu célébrer le 11 septembre 1906. 11 septembre 1906, une date très importante. Gandhi, ce jour-là, réunit 3000 personnes au théâtre impérial de Johannesburg pour prêter serment de désobéissance. Le 11 septembre 1906, c'est la création d'une idée de lutte sociale et politique qui est la désobéissance civique. Voilà, on aurait pu célébrer ça aujourd'hui. L'hebdomadaire Politis évoque 100 ans de désobéissance civique. On aurait pu célébrer également la chute de Salvador Allende. Comment le général Augusto Pinochet, ce jour-là, ce 11 septembre 1973, lance ses troupes à l'assaut du palais présidentiel à Santiago du Chili, appuyé par la droite chilienne et la CIA. On aurait pu célébrer ce 11 septembre-là, mais on a choisi un autre 11 septembre. Vous vous souvenez, ce jour-là, nous étions tous américains. Et alors... Je vais essayer de vous convaincre de quelque chose. Vous allez voir comment on peut monter une théorie tout à fait convaincante. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent d'un certain Uri Geller. Uri Geller, un gars qui était capable de tordre des cuillères à distance avec son simple regard. Eh bien, voilà ce qu'il nous dit, Uri Geller, sur ce 11 septembre. La date de l'attaque, vous connaissez la numérologie, hein, je vais faire de la numérologie, là, en direct devant vous. La date de l'attaque est 9-11, et donc 9 plus 1 plus 1 égale 11. Le 11 septembre est le 254e jour de l'année, or 2 plus 5 plus 4 égale 11. Il restait 111 jours à l'année 2001, le 11 septembre 2001. Le code téléphonique de l'Irak et de l'Iran est 119, soit 1 plus 1 plus 9 égale 11. Le premier vol à frapper les tours était le vol 11 d'American Airlines. Et puisque A est la première lettre de l'alphabet, A peut s'écrire 1, 1, OK. L'État de New York a été le 11e à joindre l'Union. New York City se compose de 11 lettres. Le navire US qui était dans le Golfe durant l'attaque a pour numéro d'identification 65N, soit 6 plus 5 égale 11. Afghanistan se compose de 11 lettres. The Pentagone se compose de 11 lettres. L'attaque contre le World Trade Center de 1993 avait été organisée par Ramzi Youssef, dont le nom se compose de 11 lettres. Il y avait 92 personnes à bord du vol 11, soit 9 plus 2 égale 11. L'autre vol, le vol 77, avait 65 personnes à son bord, soit 6 plus 5 égale 11. Zéro n'étant pas un chiffre, et il faut pas l'ignorer, le bâtiment comptait donc 11 étages. Ceux qui détournèrent les avions habitaient à l'adresse 10001. Ici encore, il ne faut pas tenir compte des zéros. Tous les noms suivants comptent 11 lettres, George W. Bush, Bill Clinton, Saudi Arabia, WWW Terrorisme, Colin Powell, Mohamed Atta, le pilote qui fonça sur le World Trade Center. En conclusion, si voilà, en conclusion de tout ça, eh bien, Uri Geller demande à chacun de prier pendant 11 minutes. Voilà. Je pense que vous êtes convaincus, c'est de ces raisonnements par accumulation qui sont absolument aberrants, imbéciles, mais c'est des façons de paralyser la réflexion et l'intelligence. On viendra sur ces façons de convaincre qui sont des procédés passionnants. Aujourd'hui, on va essayer de se convaincre d'autre chose, qu'il existe des initiatives d'intelligence populaire, au moins une initiative d'intelligence populaire. C'est à Aubervilliers. On va y aller avec Dila Tebi et Moïse Gomis. On appelle ça des régies de quartier. Il y en a un certain nombre en France où, dans des quartiers sensibles, comme on dit pudiquement et lâchement, des gens, des citoyens, les gens du quartier, essayent de réhabiliter, de se débrouiller entre eux, de se réintégrer et de prendre en charge aussi bien leur vie que leur quartier. C'est notre sujet du jour, initiative d'intelligence populaire. C'est après les messages que voici que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, ici Eric Libonati de la Guadeloupe. Enfin, j'ai trouvé les horaires de la base. J'y suis. 9h du matin chez nous. Super, c'est cool. Bon, il faudra se libérer du travail. Par contre, j'appelais au sujet de cette histoire de Vieira et Thuram. Ce que je comprends pas, c'est que Vieira et Thuram n'ont pas le droit d'inviter leurs amis, même s'ils viennent de Cachan, pendant que M. Sarkozy se permet d'inviter Johnny Hallyday et comment se nomme-t-il, et son copain, le Rasta. Eux, ils ont droit avec des gens aussi intelligents. Par contre, Thuram et Vieira ne doivent pas être assez intelligents pour pouvoir avoir le droit d'inviter des gens comme les pauvres de Cachan. Voilà mon histoire, je voudrais bien comprendre.
Eh Sarkozy, Yanama, eh qu'est-ce qu'on veut?
Les billets,
eh qu'est-ce qu'on veut?
Les billets,
et les papiers,
pour tous,
les papiers,
pour tous,
et les papiers,
pour tous,
les papiers,
pour tous.
J'appelle à propos du sondage du Figaro qui concernait les expulsés de Cachan. J'en propose un autre. Donc, approuvez-vous l'expulsion des occupants d'un bâtiment destiné à être démoli pour un parking? Ce qui veut dire une auto plus importante qu'un être humain. Drôle, non, dans le pays des droits de l'homme. Colette, de l'Île-et-Rose, voisine de Cachan, lavandière à 16h. Voilà, j'héberge une maman et ses deux enfants. Faut éviter de rester longtemps dans ce gymnase. Voilà.
Salut Daniel, c'est Julien Depau. Je viens d'écouter l'émission sur Cachan, là, par le podcast. Et je vois pas pourquoi ça gêne Sarko que les étrangers de Cachan aient été invités au Stade de France, qu'on les considère enfin comme des êtres humains. À moins que... En fait, il a peut-être peur de... Après les avoir envoyés par charter, ils vont raconter tout ça là-bas. Et du coup, toute l'Afrique va vouloir venir en France pour être invitée au Stade de France. Ah, c'est ça. Pas con, Sarko. Bon, allez, salut.
Voici le texto. Je crois que France Inter vire à droite. Pour réécouter le texto, tapez 1. Je crois que France Inter vire à droite.
C'est mon seul endroit où je me sens bien, où on me reçoit bien, où je suis, où ils sont à l'écoute de moi. Et c'est pour ça que je viens les voir souvent.
Une régie de quartier, c'est en fait une initiative d'intelligence populaire. Pour ma part, je qualifierais ça comme ça.
Ça va, Miss. Pourquoi je t'ai sauvé ?
Comme c'était prévu, et moi je suis partie faire mes CV.
Ça y est ?
Et là, il y a mon clon qui est là.
Ah, il est là, il est arrivé ?
Ouais, il est là, je vais acheter de la nana. Les 4 heures,
sont repassées. Ah, c'est pour ça que j'ai pas encore la pêche. Attends, à 17h, j'ai la pêche.
Et donc, c'est quoi le but de votre
interview ? Raconter ta vie au public,
si ce n'est nous stigmatiser encore un peu plus.
Comment ça, on vous stigmatise un peu plus ?
Non, d'une certaine manière, un peu quand même. Interviewer des jeunes dans une cité ou des femmes ou des nanas, dans quel but ? Si on n'interviewe pas tout le monde, à Paris, ailleurs, enfin, pourquoi en banlieue spécialement, les jeunes de banlieue, pourquoi ? C'est une certaine manière, on rentre déjà dans le jeu des politiciens de dire qu'en banlieue c'est différent, nanani, nanana, alors qu'on est comme ici, ça manque de mixité sociale et ça manque de thunes, et point final, en vrai on est comme tout le monde.
Et pourquoi vous parlez de stigmatisation ?
Parce que bah, c'est ce que je viens de vous dire d'une certaine manière, interviewer les jeunes qui sont en banlieue.
À la boucherie ?
C'est encore aller dans le sens où en banlieue c'est différent.
Franchement, c'est vrai, tu regardes à la télé et tout, toujours interviewer les jeunes de banlieue, tout. Mais quand est-ce que j'ai vu jeunes du 7e et tout à la télé ? Jamais.
Vas-y.
Attends, c'est comme à la régie une fois, pour suivre ce qu'elle dit. Il y avait des jeunes, c'est à leur honneur, qui faisaient un sujet pour leur diplôme, je sais pas quoi, nanana. Et ça parlait des jeunes de quartier, de la vie en banlieue. Donc, à eux, vous avez demandé d'y participer, Ali et moi. Donc, j'ai accepté, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais à la fin, je lui ai placé quand même, je lui ai dit, écoute, pourquoi ce thème ? Jeunes de banlieue, nanana, j'en dirais. Vous parlez d'indigènes. Je dis pourquoi ? On est différents de vous ? En quoi ? Tu vois ? Bon, en fait, il y a plein de choses différentes. Mais
ce qui est différent ici, c'est
mais pourquoi,
budget.
Pourquoi est-ce que nous, on est un sujet ? Ouais. Un sujet d'étude. Pourquoi ?
Mais
et
ça
après,
fait plaisir
elle a
quand
pas
même.
Hein. Répondre.
Ça fait plaisir quand même.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Dilatébi et Moïse Gomis. Une initiative d'intelligence populaire.
Flight number 2. Arriving from
Newton.
Ils m'ont pas appelé.
Moi, je vais normalement bientôt rentrer à la régie pour commencer à travailler, quoi. Et voilà, je suis content parce que j'étais au chômage là et c'était un peu dur. Ça fait 7 mois que je travaille pas. Et alors que j'étais habitué à travailler et tout ça. Franchement, moi, ma galère, c'était quoi ? C'était quartier 24h sur 24.
Trop de quartier, tu le quartier.
C'est-à-dire trop de quartier, tu le quartier, comme dit un rappeur. Et le quartier me faisait vivre et puis voilà. Quoi. Comme on dit, la civilisation chez nous, elle commence à partir de Porte de la Villette et ce qui s'ensuit. Tout ce qu'il reste, c'est le ghetto, ça s'appelle. On survit.
Vous avez un aussi beau sourire que Chinese.
Ah, merci, c'est gentil.
C'était un sourire jaune, alors ?
Non, moi, j'aime pas sourire jaune. Peut-être j'ai les dents jaunes à cause du café, mais moi, quand je souris, c'est sincère.
C'est pas de barrière, on va te
piger. Ah, quand je souris. Hein.
Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous savez votre mission ?
Ouais, ben je vais commencer par balayer le quartier, comme on dit. Je vais commencer par être technicien de surface. Déjà, je préfère faire ça que de rien faire.
Même quand on a un niveau BTS, on accepte de balayer le quartier.
D'après ce qu'on m'a dit, il y a moyen d'évoluer. Si on est sérieux, on peut passer de technicien de surface chantier, peinture, tout ça. Et puis voilà.
Et quand tu descends, quand t'es là.
Et donc moi justement, moi j'ai un objectif sur les 2 ans, c'est même sur les 6 mois, c'est justement de faire une formation. C'est ce qui m'intéresse. Une formation de plus, une expérience de plus.
C'est fort.
C'est un habit en loque. Un habit en loque. Un habit plein de trous, de déchirures, de moisissures, usé, arraché. Un gigantesque habit en loque. Grand comme un pays, grand comme un monde, grand comme un quartier. Et dans un coin, malgré tout, quelqu'un recoue. Une aiguille un peu tordue, un peu rouillée, du fil récupéré, des pièces dépareillées, mais malgré tout, quelqu'un recoue. Vous avez pigé ma petite métaphore. C'est du tissu social dont il s'agit. Et il n'est pas joli, joli. Énorme déchirure du chômage de masse, boutons arrachés de la précarité, usure des défenses collectives, accro de la déstabilisation des familles populaires, grosse tache de la ségrégation spatiale, gros trou de l'apartheid social, pas joli, joli, pas joli vu d'ici où nous sommes, à Aubervilliers, dans le 9-3, le 9 cube, on n'est pas à Neuilly, elles le disaient les deux filles, à Neuilly c'est pas pareil, les jeunes de banlieue ne sont pas tous de la même banlieue, pas tous vêtus du même tissu. Je parle toujours du tissu social, bien entendu, et la déchirure continue, et la déchirure évolue. Je voulais dire évolue. La déchirure évolue. Dans quel sens? Quels enseignements a-t-on tiré des émeutes urbaines, comme on a dit, de 2005? A-t-on enquêté sur les causes de ces violences? Sans doute, aucun. La fracture sociale va être au cœur de cette année électorale. Les candidats vont débattre et nous proposer d'audacieuses et courageuses politiques pour réduire ces inégalités. Il ne faut pas en douter. Qu'est-ce qui fait que vous en doutez? Quoi qu'il en soit, en attendant, quelqu'un recoue malgré tout. C'est qui? C'est Sarkozy. Ouais, c'est lui. De Karcher en Cachan, de Courneuve en Clichy-sous-Bois. Il en a appris des choses. Et il a compris. Avant la répression, d'abord la prévention. Non, je plaisante. C'est pas lui, mais c'est qui? Qui s'oppose à lui? Attendons et ayons confiance. En attendant, allons voir ceux qui réparent. Ils existent bel et bien, modestement, avec une petite cuillère. Ils s'attaquent à la falaise avec une petite aiguille. Ils s'attaquent à ce grand tissu. C'est les oubliés du 20h, les pas vus à la télé. Pour ça, il faudra, pour les voir, attendre la prochaine flambée de voitures. En attendant, ils recousent.
Chez moi, à croire qu'ils le font exprès.
reste, ils sont pauvres, ceux qui aiment ça.
Qui c'est qui vit à crédit, qui paye tout deux fois son prix? Qui c'est qui a plus un rond, qui fait des chèques sans provision? Qui c'est qui fait rien sa journée? Qui c'est qui regarde la télé? Qui c'est qui est surendetté, qui va être saisi? Ça va pas tarder.
Les salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès d'être dans le même immeuble que moi. Les salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès. Ils sont pauvres et qu'ils aiment ça.
Nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on leur lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais ce sont des gens relativement rares qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société, qu'ils ne pouvaient pas travailler ou qu'ils avaient été rejetés par la société.
Donc là, Azouz, on est à Aubervilliers.
Ouais.
Aubervilliers, Pantin, juste à côté.
Pantin, la Courneuve, là-bas. La Courneuve, au nord. Pantin, à l'ouest, hein. À l'est, je veux dire. Et puis, à l'ouest, Saint-Denis.
Et Paris?
Voilà. Bah, Paris, c'est au sud. Voilà.
Alors, on est juste devant la régie de quartier. Ouais. Maladrerie Émile Dubois.
Voilà.
Donc, c'est écrit en haut.
La maladrerie, alors moi on m'a expliqué, hein, mais je sais pas, hein, mais on m'a expliqué, c'est la rumeur qui veut ça.
Ah, la rumeur.
En fait, voilà, la rumeur. Hein. Très bon groupe de rap, hein, notamment. Mais bon, la rumeur en tout cas dit que la maladrerie, c'était des quartiers de quarantaine. Salem, ça va? Tu vas bien? Voilà, la maladrerie, c'est des quartiers de quarantaine où on mettait les gens malades. Donc, d'où maladrerie, ça vient de malades, quoi. Les gens qui habitaient ces lieux de réclusion étaient des malades et on a appelé ça des maladreries. Voilà ce qu'on m'a dit.
Ça, tu me passeras mardi au rendez-vous. Mardi, ça veut dire on a rendez-vous à l'assistante sociale.
Ouais.
Ah, ça, je le garde, ça.
Mais
c'est à 15h de
c'est
rendez-vous.
C'est Robinson, il faut ramener.
C'est quoi comme ça?
C'est
l'acte de naissance de Robinson qu'il faut, c'est ça?
Voilà.
Et c'est nous qui l'avons dans ton dossier.
Ouais.
Ok, ben, je te le rapporte. Mardi, tu viens à 14h ici. À 14h, on sort les papiers, on fait les photocopies comme d'habitude.
Mais non, il faut
et
que
on va
tu
au rendez-vous.
Viens. Mardi, on a un rendez-vous avec toi, avec l'assistante sociale.
C'est à 15h. Non, toi, tu viens à 14h ici.
Ouais.
Et nous, après, à 15h, on y va. Le temps de récupérer tous les papiers, tout ça, tu viens à 14h.
Ouais.
D'accord?
Ouais.
Tiens, Pierrot, moi, ça, je le garde. Ouais. C'est mardi, donc le rendez-vous. N'oublie pas. Un petit. Il n'y a plus, hein, je crois. Attends, je vais voir. Je vais voir s'il y a un petit café pour Pierrot.
Dispositif d'insertion en direction des jeunes des zones urbaines sensibles. Dispositif d'insertion en direction des jeunes des zones urbaines sensibles. Combien de fois a-t-on entendu ce genre de formule depuis 15 ans, 20 ans, pour les résultats que l'on sait, c'est-à-dire des résultats assez navrants en général. La formule, elle a été utilisée en novembre dernier, lancée par Dominique de Villepin, la mission emploi quartier, MEQ. Qui aurait aujourd'hui la curiosité de savoir ce que devient cette mission emploi quartier? C'est ce genre de chose qui va au cimetière des innombrables mesures et dispositifs d'insertion qui ont été lancés à chaud et qui ensuite s'enfoncent dans les marécages de la fracture ou de la rupture sociale. Les régies de quartier semblent un système différent et on s'y est intéressé avec Dila et Moïse ici à Aubervilliers. On essaie de voir comment ça marche. Et comment ça marche? Eh ben, l'objectif était assez simple au départ. Il s'agissait d'associer les habitants d'un quartier à la réhabilitation de leur cité, mais aussi évidemment créer du lien entre les différents générations, types d'habitation, types d'habitants, et à travers donc la réhabilitation, et puis créer des emplois, un retour à l'emploi, une réinsertion. Bon, on est allé voir pratiquement comment ça fonctionne, et on va comment. Alors c'est un local très sympathique, très chaleureux. Il y a plein de gens, ça circule dans tous les sens. C'est Azouz qu'on vient d'entendre, qui dirige, qui est le directeur de ce centre, et on va voir un peu les uns et les autres. Alors c'est assez hétéroclite comme population. Il y a une ambiance sympa, chaleureuse, un café, un petit casse-croûte, on tape son CV sur sur un ordinateur dans un coin, on discute. Vous allez voir un peu comment ça se passe. On va commencer avec Youssef, qui est devenu, vous allez voir comment, au bout de quel parcours, il est devenu le médiateur social et culturel de la régie de quartier d'Aubervilliers. Youssef, c'est pas rien.
Donc Youssef, c'est toi?
C'est bien moi, c'est bien ça.
Donc là, tu vas lui servir un petit café?
Je vais faire un petit café comme tous les matins habituellement. Il vient, il passe prendre son petit café. Là, il est à l'hôpital, donc on le voit un peu moins souvent.
Toi, t'es médiateur?
Je suis médiateur social et culturel de la régie du quartier, voilà.
D'accord.
Et je sers du café aussi.
Accessoirement.
Je suis polyvalent. On connaît la dose de sucre, tout ça. On a l'habitude.
Ouais, je vois ça, là.
Voilà.
Donc il prend un sucre?
Il prend un sucre et voire un demi, des fois, quand le café est un peu plus fort que d'habitude. Il faut pas trop lui en mettre, faut pas qu'il boive trop du café chaud, sinon après il est trop chaud, Pierrot. Après il est trop chaud, Pierrot. Tiens mon pote, s'il est trop dur, il y a déjà un sucre dedans. Tu veux faire quoi avec une fourchette? Hein? Tu vas casser la croûte? Tu vas pas la casser ici la croûte? Bah tu prends ton truc et tu vas dans la cuisine et tu casses la croûte dans la cuisine.
Merci.
Tranquille.
Donc il y a beaucoup de va-et-vient ici. Hein.
Voilà, il y a beaucoup de personnes comme Pierrot et Monsieur Amar. Qui viennent nous voir, qui ont des difficultés dans leur vie, administratives, tout ça. Et des fois, ça dépasse l'administratif, donc ils viennent nous voir. Des fois, même, c'est juste pour les consoler, des fois, c'est juste pour leur expliquer des situations, où aller, dans quel organisme aller. Et voilà, quoi.
Ouais. Toi, t'es médiateur social depuis combien de temps?
Depuis un an à la régie du quartier.
Et tu faisais quoi avant?
Avant, j'étais peintre à la régie du quartier. J'ai pas trouvé ma vocation dans ce domaine. Donc, je me suis plus retrouvé dans le social, dans la bureautique, que dans le travail le travail manuel. Et voilà, donc, je suis archi content. J'ai trouvé ma vocation dans ce que je fais grâce à la régie du quartier. J'étais un peu égaré dans ma vie. Et voilà.
Égaré?
Égaré, ouais, carrément.
Avant tout ça, t'étais?
Avant tout ça, j'étais un peu égaré, sorti d'une scolarité un peu difficile.
À quel âge?
À 17 ans. Donc, je me suis retrouvé dans des plans d'insertion. J'ai été traité par des éducateurs parce que j'ai eu des problèmes judiciaires. Donc, tout que je suis à la régie du quartier, tout se passe bien. Dernièrement, c'était au mois de janvier que j'ai vu mon éducateur avec le juge des peines. En fait, je devais faire du ferme. Et vu ma situation actuelle, la juge m'a dit que j'étais sur la bonne voie et que c'était pas pour moi le pénal, quoi. Si je restais comme ça, c'était pas pour moi le pénal. Donc voilà, je me suis mis plus ou moins dans le droit chemin. Et j'en suis fier et content.
Donc toi, t'as failli faire du ferme?
Voilà. Je suis passé par la case non-retour. Je suis sorti de l'école à 17 ans. Après voilà, je suis parti, j'ai bifurqué dans la violence et la délinquance. T'as les gentils, t'as les méchants. Et je me suis retrouvé dans les méchants. Donc après,
c'est-à-dire, c'est quoi être un méchant?
Des gens un peu plus âgés que moi, des gens qui m'ont proposé des choses. En argent, je parle. J'avais des besoins. Donc j'étais obligé plus ou moins. Bon, on a toujours le choix, mais j'ai été plus ou moins obligé à cet âge-là de faire mes premiers pas dans la vie. Et je les ai fait dans la délinquance. Après voilà, j'ai eu la chance de réussir à me remettre dans le droit chemin, ce qui n'est pas le cas sur certains potes à moi qui actuellement faisaient des conneries avec moi, se mangeaient des 5 piges fermes, voire des 7 ans fermes et des mandats de dépôt. Voilà quoi. Moi j'ai réussi à esquiver tout ça. Je peux remercier que la régie du quartier. C'est ni la mairie d'Aubervilliers qui a fait quelque chose pour moi, ni les juges d'application, ni personne. J'ai juste fait mes preuves par moi-même. Et en fait, c'est grâce à la régie, parce qu'elle m'a donné cette chance qu'on m'avait pas donnée avant.
Donc toi, en tout cas, à 17 ans,
je me suis retrouvé face à moi-même, livré dans la rue. Je mentais à mes parents, je disais que j'allais à l'école, alors que je sortais avec mon sac à 8h30 du matin. Je me retrouvais à 8h30 du matin sans un rond dans les poches. Je cachais mon sac dans mon bâtiment et j'allais faire le voyou. Et c'est de ma faute, c'est mon choix, tout ça. Mais quelque part, c'était pas mon choix. J'ai jamais voulu poser, jamais dans ma vie, je me serais dit à 15 ans ou 16 ans, jamais je me serais dit, je vais poser mon sac d'école dans les placards de mon bâtiment et je vais aller faire le voyou. Jamais je me suis dit ça, c'était pas du tout mon intention. Mon intention, c'était de réussir dans ma vie, de faire plaisir à mes parents.
Ça veut dire que toi, dans le quartier, dans le regard des gens, ouais, t'es passé du petit voyou,
voilà,
au médiateur social.
Au monsieur, carrément. C'est touchant quand des fois je rencontre le maire d'Aubervilliers ou des élus qui me disent tu fais un travail extraordinaire. Je sais pas quoi dire, hein. Je suis ému, franchement, je suis touché quand même. Avant on me disait, tu vois le bien, Youssef, t'es un tueur, tu fais bien les fils des motos. Hein. J'étais connu par la police, j'étais connu. Moi, quand on m'interpellait dans la rue et j'essayais de courir, des fois, on me disait, monsieur Bouyaya, tu t'arrêtes.
Oh.
Carrément.
Ah ouais.
Tellement que j'étais. J'ai dit, voilà. Et des fois, on me voyait faire des conneries, des petites conneries. On me laissait tranquille. Tellement que c'était bas de gamme pour moi. Et ils voulaient me serrer sur des gros trucs. Donc, voilà. Après, j'ai réussi à me remettre dans le droit chemin. C'est pas grâce à moi, c'est parce qu'on m'a tendu la main, on m'a tendu la perche. Et avant, on l'avait pas fait, c'est tout. Maintenant, je pense que aucun jeune à l'origine, il va être voyou. Aucune personne. Ça, c'est une solution parmi tant d'autres. C'est la solution de l'abandon. Quand tu abandonnes, presque, quand tu baisses les bras, tu vois plus d'issue. Mais tu veux pas le devenir. T'essayes de pas le devenir. Mais après, t'es obligé parce que y a plus que cette porte dans ta direction. T'as tellement zigzagué que t'arrives plus que devant une seule porte. Alors que t'étais devant 5 ou 6 portes au tout début. Et t'arrives devant une porte et il n'y a plus que cette direction. Et tu t'es obligé d'ouvrir cette porte ou tu stagnes et tu restes comme ça. Donc tu ouvres cette porte et tu deviens ce que tu n'aurais jamais voulu être. Et voilà, après tu te rends compte que t'es le seul perdant de ça, quoi.
À l'arrière-train du bus 14, comme à la remorque de la vie, je suis amorphe côté fenêtre, les yeux assis dans le vide, à ne surtout pas me demander si la vie me considère comme un brave. Je viens d'un lieu où chacun se complaît à être grave. Tourner en rond dans ces ruelles de la vie que même les lampadaires n'éclairent plus. Être baigné dans le noir et pourtant se croire dans la lumière totalement nu. Sortir la tête de l'eau ou se noyer dans le fantasme. Je viens d'un lieu où chacun se complaît à être grave. Je me blesse tout le temps avec le tranchant de l'orgueil. Je suis de ceux qui lentement deviennent leur propre cercueil. Je suis aveuglé par des murailles de tours. Je me dis, il peut rien y avoir derrière ces remparts. Je viens d'un lieu où chacun se complaît à être grave. Avoir la prétention d'être soi, on se connaît toujours trop peu. Donner du sens, cette pensée me rend exceptionnel en ce lieu. Provincer mon existence, il fut un temps au Paris, j'y serais allé même à la nage. Je viens d'un lieu où chacun se complaît à être grave.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avec Ahmed, on était juste à la régie de quartier et il m'a dit qu'il y a quelqu'un chez vous qui est en train de faire le jardin, c'est ça?
Nous sommes contents.
Bonjour.
Nous sommes très contents.
Ah ben, bon. Je vous laisse, à tout à l'heure.
Oui, alors la régie de quartier, elle est installée dans un endroit, un carrefour un peu à Aubervilliers, entre un quartier de HLM, et puis des petits pavillons, des petits paftards, il y en a encore beaucoup dans ces endroits-là, Aubervilliers, tout le 9-3, il y a ces petits paftards. Et c'est deux cultures différentes, hein, c'est deux cultures différentes, ces petits pavillons, les petits jardins, tout ça. Et puis, c'était au tournant du siècle dernier. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on a vu arriver ces HLM, ces bars de partout. Et ceux qui habitaient dans les pavillons voyaient les autres vraiment comme des barbares, les lapins dans des cabanes à lapins, des cages à lapins. Sauf que ceux qui se souviennent encore de leur premier HLM, c'était formidable, c'était génial. Beaucoup de ces habitants venaient de quartiers difficiles, voire même de bidonville. Il y en avait dans le coin, il y en avait au Aubervilliers, il y en avait à Nanterre, et c'était pour eux un bonheur formidable d'avoir de la place, d'avoir de l'eau chaude, d'avoir des baignoires, etc. C'était inconfort. Mais toujours est-il que la fracture est restée entre les paftards et les habitants d'HLM. Quelque chose est resté. Mais pas là. Là, il y a, face à la régie, il y a un petit pavillon, et dans ce petit pavillon habite monsieur Verica. Et monsieur Verica, il est de l'immigration précédente, d'une des immigrations précédentes. Et qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben, il traverse la rue, de temps en temps, pour voir un petit peu, il a de la bouteille, monsieur Verica. Et il vient se mélanger un peu à tout ça. Il y a de la vie, il y a des gens, on peut discuter, donc il est content. Et l'une des fonctions de la régie, c'est de donner des coups de main aux gens du coin. Monsieur Verica, il a de la bouteille, il peut plus faire son jardin. Alors, la régie de quartier envoie un des membres de cette régie lui faire son jardin. C'est Ahmed qu'on vient de voir, l'agent technique qui a la charge de cette organisation, et c'est Caï qui est chargé de l'entretien du jardin de Monsieur Verica, qui est là devant vous à l'instant même.
Vous êtes là depuis combien de temps, vous ?
1929.
Et vous êtes né ?
1922.
Vous êtes né en France ?
À Pantin.
Et vos parents ?
Italia.
Italia.
Je suis fils italien, je suis italien de sang, mais français.
Vos parents, ils sont venus...
Mon père a fait la guerre, ici. 14. Il a fait la guerre contre les Allemands, contre les Autrichiens, là-bas, à la frontière. Et après, ils ont été embarqués, là, au chemin des Dames.
Au chemin des Dames ?
Ah, ouais, ouais. Bah, c'est dans l'Est, la guerre contre les Allemands, quoi. Vous savez pas ça, vous ? Ouais. Il y a eu de la casse, là. D'après ce que mon père disait. Hein. Il n'a pas y resté là. Il a fait sa vie ici.
Et il faisait quoi après la guerre, votre père ?
Manson.
Et vous habitiez où ?
Un peu plus loin. Plus loin. Dans une baraque.
Dans une baraque ?
Ah ouais, enfin, un vieux truc, quoi.
Un bidonville ?
Presque, oui. Disons un peu. Moche, quoi.
Des baraques ?
Ouais, encore au plâtre. Voilà.
Et vous étiez combien dedans ? Votre père, votre mère ?
Et pas mal de gosses. Je suis aîné de 10 gosses.
Mais il est où le travailleur ?
Il est peut-être par là. Il est là, monsieur.
Voilà.
C'est une tâche un peu difficile dans le jardinage parce que vous êtes dans une position pas très confortable.
À ras du sol.
Voilà. Pas très très confortable, quoi.
Bon, ben ça va, il a bien avancé là.
Très bien. Bon, ben, il faut qu'il aille manger maintenant, il va être midi. Hein. Il faut qu'il mange, cet homme-là. Comme tout le monde. Exactement.
Vous appelez comment ?
Caï.
C'est la première fois que vous vous voyez tous les deux ?
Première fois.
Alors vous, monsieur Verica, qu'est-ce que ça vous fait de voir ce monsieur, il est chez vous, là ?
Mais je suis enchanté. C'est des gars qui travaillent. Et pour réussir, il faut travailler. Respectueux, l'un comme l'autre. Voilà. Il faut travailler.
Là, vous avez quel âge maintenant ?
83.
Vous êtes à la retraite depuis combien de temps ?
23 ans, quoi.
Et pour vous, c'est quoi le travail, pour vous ?
Le travail, mais ça fait des hommes. Ceux qui travaillent pas, c'est pas bon. Nous, on appelle travailler tout jeune. Après, c'était la guerre, après, c'était ci, après, c'était ça, puis on est là.
Vous avez travaillé très jeune, vous avez quel âge ?
14 ans. Voilà.
Quelqu'un qui reste là, voilà. Baisser les bras, et quoi. Voilà. On vient le nourrir.
Et puis, on est tous pareils. Là-haut, on est tous pareils pour nous trois. Vous voyez ce que je veux dire ? Puis respect pour tout.
Non, mais c'est l'éducation qui fait les hommes. Hein. Ouais, quand on sait pas.
À l'école.
Vous habitez à quoi ? À deux petits pas, hein, de la cité à côté. Il y a une grande cité assez connue, les Courtilières. À côté de nous, il y en a une Casanova. On est dans un petit havre de paix. Il y a quelques pavillons.
Ah, oui,
votre beau jardin.
On est très bien. Bon voisinage, vous voyez, partout. Il y a des crotiges, des Algériens, Marocains.
Dans le pavillon d'à côté, là ?
Oui, des gens, comme ça.
Avec le pouce levé ?
Comme ça. Des jeunes qui, tout petits maintenant, c'est des hommes. Et puis, quelle éducation.
Ouais. Vous y allez des fois dans la cité pour rencontrer des gens, parler avec eux, aller voir les jeunes ? Comme vous êtes retraité, que vous avez un peu le temps pour leur dire, attendez...
J'étais au départ, mais on n'y va plus maintenant. Ils vous vognent, ils vous tabassent, ils vous... Faut les éduquer.
Comment ?
C'est les parents, pour moi c'est les parents au départ. C'est les parents qui dressent les gosses. Et les gosses, c'est pour l'instruction.
L'école ?
C'est comme ça qu'on a fait, nous. Non, ils ont tout gratuit, ils sont pas contents. Moi, je suis pas d'accord. C'est mon idée, à moi, hein. Faut travailler, faut donner du travail aux gens. Quand il y a un musée de mes fesses qu'ils ont fait, un musée, qu'est-ce qu'on a à foutre du musée, nous?
Le musée du Quai Branly?
Ouais, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Faites travailler les jeunes, donnez du boulot aux gens. Voilà, moi je vois ça comme ça. Puis à droit, hein, que ça marche. Bah, au travail. Manger, travailler, des vacances, d'accord. Pas de tir au cul, hein.
On est devant chez vous, on entend les oiseaux, c'est super agréable.
Ah ouais.
On est à deux pas de la régie de quartier.
Ouais.
On la voit d'ici, elle est à quoi,
ouais,
à 50 mètres?
Ouais, ouais. Bah non, je fais pas de compliments à ce qu'ils ont fait, là, les bâtiments. C'est les cages à lapins, ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de tout ça, là?
J'en suis pas satisfait. Les pauvres gens qui sont là-dedans, on est con. Il y a des lapins. Ah bon, ça. Mm-hmm.
Vous auriez supporté de vivre là-dedans, dans ces bâtiments?
Non.
À leur place, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Jeune, vous auriez fait quoi?
Ah bah oui, c'était pas même compris, mais c'était pas la même chose. Hein. Des jeunes, on travaillait, on essayait de gagner 3-4 sous pour faire quelque chose. Très brave.
Hein. Ouais, vous avez une belle maison, une grande belle maison.
Ouais.
Je vous remercie,
Charles. Tiens, voilà ma femme.
Ah, entourée d'un, deux, trois, quatre, cinq... vous avez aidé madame à porter les courses? Ah, vous êtes tombé?
Mon caddie, il a dû raccrocher quelque part.
Oh, merci.
Ah, mais je voulais dire merci, j'étais bien contente qu'elle soit là. Hein.
Elle est tombée juste là, à côté?
Oui, oui.
Qui a relevé, madame?
Moi, tout le monde. J'ai relevé. Ah, ouais. Tous. C'était gentil comme tout. Ouais, ouais.
Elle est belle, cette jeunesse.
Ah, oui, c'est ce que je dis. Ah, mais ils se sont précipités tout de suite, hein, quand ils sont vus par terre. Enfin, voilà. Il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, hein.
Bien que j'ai eu de l'aisance à partir vers l'inconnu, j'aurais pourtant jamais cru y mettre autant d'excellence. Mon amour propre comme une lance pointe vers l'obscur, le tordu. La besogne d'un mec obtus qui s'abîme de persistance. J'ai bien failli perdre le sens et beaucoup s'y sont perdus. Combien d'amis elle a eu, celle qu'on nomme des espérances? Pourtant je reste comme en transe, attaché comme un mordu à cette chose qui épuise, tu me ferais des places immenses. J'ai les pieds lourds, l'esprit rance, je suis épuisé, y'a plus tu. Y'a des jours où je me situe entre le néant et l'absence. Pourtant encore si j'avance, c'est qu'elle me colle, me pollue. Ma saleté d'espérance. J'aurais voulu me prélasser entre divan et télé, mais y'a la sueur qui coule et les idées qui dérangent. La sueur noie les idées et je reste un peu lassé. Mais bientôt une vague me saoule, m'aspire, me noie, me démange. Le monde s'est laissé régler, les foules sont apprivoisées. L'économie est une bible, consommation est leur ange. Et on prie l'esprit plié pour qu'il nous laisse épargner. On croit qu'on décroche la lune avec nos ailes de mésange. Et quand je parle de mes projets introuvables chez le VRP, on trouve que je suis endiablé, on dit de moi que je m'enfonce. Fini par dire que je suis fâché, fâché, je deviendrai fâché avec ma saleté d'espérance. Les mots de tête ont repris et tous les mots qu'on s'est dit. Nos vieux plans, nos stratégies, valables pour changer trois mondes. On pense plus, on les oublie, on en rit et on sourit. Pourtant dans la tête réside une voix endormie qui songe. Elle sommeille dans un bon lit, à l'édredon bien rempli. Elle s'enfonce dans tendre blic, son lit ressemble à une tombe. Mais dans mon esprit meurtri, cette vie n'est pas endormie. Son lit doit être fait d'ortie, car elle gratte et ça me ronge. Elle m'impose tous ses ennemis, elle m'engraine vers les conflits. Plonge ma tête dans mon vomi, quelles qu'en soient les conséquences. J'ai des taches d'antipathie, des boutons de fièvre incompris. C'est ma saleté d'espérance.
Une régie de quartier, c'est en fait une initiative d'intelligence populaire. Pour ma part, je qualifierais ça comme ça.
Initiative d'intelligence populaire.
Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est intelligent dans les quartiers, il y a des personnes intelligentes. Il n'y a pas que des... ce qu'on veut nous montrer à la télé, quoi. Non. C'est multiple, c'est mêlé, c'est riche, c'est complexe. Et c'est pas en tenant des discours, incendiaires sur les plus faibles, les plus démunis, que tu deviens plus fort.
Sur ceux qui morflent le
plus. Voilà, que tu deviens plus fort. Et cette autorité-là, pour moi, c'est pas une autorité, c'est de la coercition pure. Et c'est l'autorité la plus primaire, la plus barbare, quoi. Voilà.
Quelle autorité?
Bah celle que, à travers les mots de Sarkozy, celle qu'on entend, je passe les
Karcher et compagnie.
Bah ouais. Ça c'est quoi ça? Ah ouais, c'est facile d'être fort avec les faibles, bien sûr.
Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est justement de trouver les moyens de transformer la société, notre environnement, pour qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on puisse partager. C'est ça la politique, c'est rien d'autre.
Donc, quelque part, la régie de quartier, c'est l'outil politique des habitants du quartier.
Tout à fait. Ben voilà, c'est vraiment... Moi, je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse avoir. Enfin, en aussi peu de mots, je crois que c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un outil de valorisation, quoi.
Ouais. Bonjour, Mohamed.
Voilà, ouais, mais sauf que c'est pas des mots entièrement en l'air. C'est en vrai, dans ce local à Aubervilliers où on se trouve, avec Dila et Moïse, ils le font vraiment depuis un certain temps, et ça marche pas mal. On restera là encore demain après-midi avec eux, mais là, voilà deux dames qui sont là et qui font partie de cette régie de quartier.
Bonjour. Vous avez fait quoi là aujourd'hui? Alors là, vous êtes en tenue, vous avez les balais, les produits pour nettoyer.
Je donne les bâtiments.
Vous avez commencé à quelle heure aujourd'hui?
À 7h du matin jusqu'à 10h30.
Toutes les deux, vous habitez ici?
Oui, on habite ici.
Ça fait combien de temps?
Moi, ça fait 3 ans.
Presque 12 ans.
Ça fait combien de temps que vous travaillez à la régie de quartier?
Presque 12 ans maintenant. Le 2 août, c'est 12 ans.
Moi, j'ai travaillé maintenant 1 an, peut-être 3 mois, 4 mois.
Et avant de travailler à la régie de quartier, vous faisiez quoi?
Moi, avant, je travaillais comme fixe, jamais je travaillais comme ménage. L'argent, qu'est-ce que j'ai tout, c'est pas assez, même pour payer le loyer. Hein. C'est pas assez, même pas pour payer le loyer. Hein.
Et vous gagnez combien par mois?
Des fois 500. Avant, j'ai gagné 585, 75. Mais maintenant, un peu.
Et votre mari, il travaille?
Mon mari, il est l'entraite. L'entraite, oui.
Et lui, il a une bonne retraite ou?
Ça va.
Ça va, c'est-à-dire?
Mais
il fait quoi, 600, 700?
Ben, à peu près comme ça, oui.
Et vous avez des enfants?
Oui, j'en ai deux, des enfants, oui.
Deux?
Oui, j'en ai une fille, un garçon.
Ils vont à l'école, ils sont tout petits?
Oui, non, à l'école maintenant, ça y est. Hein. Elle grandit maintenant, 17 ans.
Les deux, ils ont 17 ans?
Oui, parce que les jumeaux.
Et votre collègue, elle s'appelle?
Dabia.
Dabia? Qu'est-ce que vous faisiez avant, vous? Avant de travailler ici?
Ça va. J'ai travaillé à la maison. J'ai gardé la petite parce que j'ai ma fille, elle est petite. Pas encore les rentrées maternelles. Bon,
vous avez un enfant?
Non, j'ai 3 les enfants. J'ai 3 filles. Il y a une fille de 18 ans, il y a une fille de 2 ans, il y a une fille de 4 ans. Après, elle est partie à la maternelle, elle rentre à la maternelle. Moi, je suis obligée, je travaille.
Pourquoi obligée?
Parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer des études, faut pour les enfants. Comme ça, on a.
Votre mari, il fait quoi?
Mon mari, il travaille au collège.
Il fait quoi? Il est professeur?
Il travaille à la plonge.
Mais avec son salaire, c'est pas assez?
C'est pas assez. Il n'est pas assez. Il n'est pas assez. Parce que moi aussi, mon mari travaille en même temps que moi. Et mais maintenant...
Donc votre mari et vous, ça fait un plein temps?
Votre mari au moins gagne 1000 euros. Une personne, il gagne 1000 euros. Nous, il gagne 1000 euros.
Donc, je vais vous laisser travailler, là.
Oui, obligé.
Merci, bon courage.
De rien, merci.
Chez M. Roger.
D'accord. Tu vois? C'est fort.
Populaire des quartiers. On passera une heure à nouveau demain dans cette régie de quartier à Aubervilliers. C'était un reportage de Moïse Gomis et Dila Tebi. Merci à tous, merci à Azouz, à Yasmine, Debia, Youssef, Alouma et à toutes les autres forces de la régie de quartier d'Aubervilliers. Vous pouvez retrouver cette émission sur franceinter.com ou bien sur labasse.org, la-bas.org. Vous pouvez réécouter et podcaster si vous voulez, tant que vous voulez, cette émission. Technique aujourd'hui, Arnaud Caillet et Jean-Claude Barret. C'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le Pascariello et c'est Christophe Humbert qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com.
L'enseignement est l'une des priorités des Français. Tous veulent une meilleure école. Parents, enseignants, élèves se sont joints à Philippe Mérieux dans son livre « École, demandez le programme » pour construire une école à la hauteur de nos ambitions. Sans tabou ni langue de bois, mais avec de l'imagination et du courage. « École, demandez le programme » de Philippe Mérieux, une coédition France Inter.
On se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Les informations, Claire Servageant.